Bonjour à tous et bienvenue sur Changemaker Stories, le podcast qui met en lumière des acteurs du changement. Découvrez les parcours fascinants d'hommes et de femmes qui œuvrent à travers le monde chaque jour à la transformation de notre société pour la rendre meilleure. On vous souhaite une très bonne écoute. Bienvenue dans Changemaker Stories, Cyriac.
Merci.
Bienvenue à vous aussi les auditeurs. Aujourd'hui, on va parler des attentes de la jeune génération sur le marché du travail, des différences entre les plus jeunes et les plus âgés. Et moi, je me mets presque dans la plus ancienne avec mes 30 ans maintenant. Donc voilà, on va voir ça avec Cyriac, qui a un parcours assez atypique. Et donc, ça va être hyper intéressant de plonger dedans et que tu nous racontes tout ça. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui t'es et d'où tu viens ?
Ouais, je m'appelle Cyriac de Beaumont, j'ai 22 ans. Je fais une école de commerce, j'ai toujours habité à Paris. Et aujourd'hui, j'ai monté ma boîte spécialisée dans les RH, alors que tout me prédestinait à faire de la finance ou du conseil. Voilà, un parcours, certains le voient comme chaotique ou atypique. Moi, je le vois juste, je suis mon destin, mon intuition. Mais voilà, globalement.
Oui, alors bon, là, comme tu le présentes, ça paraît même presque classique, hein, parcours ouais. D'école de commerce consulting. Y a un truc, c'est que tu aurais peut-être pu être veto. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter ça ? Qu'est-ce qui t'a fait changer de plan de carrière ?
J'avais un rêve d'enfant de devenir vétérinaire et parfois tu suis ton rêve d'enfant jusqu'à la fin de tes études. Beaucoup l'abandonnent très vite, ce qui va être maître ou maîtresse, policier, pompier, enfin les métiers classiques, vétérinaire en fait partie. Et moi, ça m'a suivi jusqu'au bac. J'avais pas envie de faire de prépa en France parce que la filière est quand même assez difficile. T'étudies la géologie pour finir veto, je voyais pas le sens dedans. Et je me suis dit, je m'inscris en Irlande et il me fallait un plan B parce qu'il y avait les résultats très tard. Et à un forum, un peu bêtement, j'ai vu du monde à un stand de l'ISEI. Et je me suis inscrit en me disant, ça n'a pas l'air difficile le concours, c'est plutôt bien noté. Je m'étais jamais renseigné sur les écoles. J'ai été pris et j'ai fait ma rentrée parce que la rentrée en Irlande était beaucoup plus tard dans l'année. En me disant, quitte à être pris et avoir réservé la place, autant le faire. Et j'ai jamais réussi à partir. Donc le rêve de devenir vétérinaire s'est envolé, mais avec aucun regret.
Jamais réussi parce que tu te sentais trop bien ou parce que tu t'es...
Tu t'arrives dans un environnement où tu te sens enfin adulte, tu viens de passer ton bac. J'étais très jeune aussi, j'avais tout juste 15 ans.
Et toi, t'es rentré en études supérieures à 15 ans, c'est aussi un autre point assez important qui doit beaucoup, beaucoup peser dans la balance, surtout est-ce que je vais vivre tout seul en Irlande ou est-ce que je reste plutôt proche de papa-maman quand on a 15 ans, ça a
Exactement.
Du sens de se poser cette question.
Exactement, et puis tu t'arrives dans un endroit, tu te fais des potes, tu découvres plein de choses. En fait, je m'étais tellement peu renseigné sur ce que j'allais faire et je connaissais pas, j'avais fait un cursus S très scientifique, donc beaucoup moins axé sur l'économie et ça m'a plu. Et je me suis dit, pourquoi partir? Enfin, ça me va si je veux vraiment devenir vétérinaire. Peut-être que dans un an, deux ans, j'aurai cette pulsion de quitter et de reprendre les études, mais j'étais très bien à ce moment-là. Et c'est ce que je te disais, toujours suivre mon intuition et me dire, si t'as envie d'être heureux à ce moment-là, il faut faire ça, tu le fais et tu vois où ça te mène. Et au pire, tu t'adaptes, c'est pas très grave.
Aujourd'hui, tu as 22 ans, tu as monté une boîte de conseil en RH. Qu'est-ce qui t'a mené jusqu'ici, après l'ISEG, j'imagine, ou pendant l'ISEG ?
Ouais, pareil. Beaucoup de chance, beaucoup d'opportunités saisies. Moi, j'ai fait partie de la génération Covid pendant ces études. Et j'avais un stage, je vais rentrer dans les détails rapidement, mais parce que c'est là qu'on voit qu'il y a beaucoup d'opportunités qui font que tu t'atterris à un endroit. J'avais un stage qui avait été annulé, qui devait commencer le premier jour du premier confinement en 2020. Je rentrais d'Australie à ce moment-là. Il a été annulé. Donc, je me retrouve pendant le confinement avec rien, comme beaucoup de monde. Et là, j'ai eu une opportunité de rejoindre une boîte en stage pour rattraper justement ce stage. Et je suis resté derrière un an et demi, alors que ça devait durer 3 mois à 400 euros par mois. Tu vois, le truc vraiment pour te dépanner, qui avait ce papier rien de sexy. Et du coup, j'étais bras droit du DG de cette boîte où je m'occupais à la fois de la RH, de l'administratif, de la finance. Donc, c'était un premier pas dans la RH. Après, j'ai rejoint le groupe Adeco. Juste au bout d'un an et demi, donc juste après mon mémoire, mais j'étais pas encore diplômé de l'ISEC, ça allait être sur mon semestre de mémoire et sur mon stage de fin d'études qui devait le valider. Et donc j'ai fait ça pendant un an et demi à nouveau, et pareil, un peu du hasard, à la base j'y suis allé parce qu'on m'a promis un job en transfo et stratégie, donc chef de projet très classique, rien d'atypique, et au bout de 4 mois on m'a proposé de prendre la stratégie digitale et l'innovation du groupe, alors que j'avais fait un master en finance, le truc qui n'avait aucun sens, mais j'avais des
boss. Là, on parle du groupe Adeco au complet.
Stratégie. Du groupe Adeco en France.
D'accord, ok.
Et qui représente en France, c'est 6 milliards de chiffre d'affaires. Enfin,
on parle d'un poste qui est très très senior là pour une personne de 20 ans.
Et j'avais tout juste 20 ans. Donc c'était. Je regardais avec des grands yeux, mais en même temps, je me suis dit, faut foncer. Enfin, au bout d'un moment, si on te fait confiance, il faut arrêter de se poser des questions. Et donc j'ai foncé. J'ai des opportunités de dingue. Tu fais des trucs de dingue. On te laisse gérer des projets incroyables. Et puis surtout, t'as pas encore cette maturité professionnelle ou en tout cas cette seniorité professionnelle qui te dit ah non ça tu peux pas le faire. Donc en fait tu fonces et tu défonces toutes les portes, qu'elles soient fermées à double tour ou grandes ouvertes, tu t'en fous, tu te tapes dedans, ce qui plaît beaucoup à certains et ce qui plaît pas du tout à d'autres, mais surtout dans un groupe comme Adecco qui est pas connu pour être le groupe le plus moderne en toute franchise, c'était un peu, vous savez, on est un peu à l'équivalent de la Poste ou la SNCF en termes de modernité, même dans l'activité. Et j'étais surtout le seul jeune, parce que c'est des boîtes qui n'attirent pas des jeunes de base. Et donc j'ai fait ça, et enfin j'ai fini chief of staff du CEO d'une des filiales. Et puis à un moment, je me suis rendu compte que j'étais pas là où je devais être. Tu fermes ton ordi à 19h, t'es à la Défense, tu rentres chez toi, tu rouvres ton ordi à 21h jusqu'à minuit. T'essaies de boire un verre avec des potes dans le créneau entre deux, mais en fait c'était pas une vie. Et puis je me suis dit, mais en fait là... Enfin, j'ai compris comment ça marchait. Là, je peux continuer à prendre les promotions, mais au bout d'un moment, ça n'arrivera plus à rien. Et donc, c'est comme ça que j'ai lancé Grads.
Ouais, bah on va revenir là-dessus. Mais avant, est-ce qu'avec le recul, tu sais pourquoi est-ce qu'on t'a fait confiance sur la prise de ce poste-là? Est-ce que tu sais s'il y a... En fait, peut-être que ça peut aider des auditeurs, tu vois, qui se disent ah, « Attends, mais comment est-ce qu'il a fait pour réussir à avoir ça ?» Moi, je pense à Agathe Monpaise, qui est devenue la CEO de Leroy Merlin France à 28 ans. Bah, en fait, c'est un peu ce même genre de coup d'éclat où tu sais pas trop d'où ça arrive au moment où ça arrive, mais peut-être qu'avec le recul, là, tu arrives à me dire « Ok, je pense qu'en fait, il s'est passé ça et c'est, cette opportunité, elle est arrivée parce qu'il y a eu ça, tu vois. »
Je pense qu'il faut oser. Et c'est peut-être moi, ça me paraissait très naturel et je pense que c'était aussi qui j'étais et qui je suis. Mais effectivement, quand je vois beaucoup de mes potes aujourd'hui qui n'osent pas aller demander des choses, demander que ce soit des augmentations, d'autres missions, du changement, proposer des idées, bah moi je suis arrivé. Et je pense que mon premier rapport d'étonnement qui était avec les boss d'Adecco France, enfin du groupe Adecco en France, on m'avait dit faire un truc très lisse, caresse dans le sens du poil. Et moi j'ai dit, mais en fait c'est hors de question. Et donc je suis arrivé et j'ai vraiment dit aucun point positif. Et ils m'ont regardé, ils me disaient, du coup t'as des points positifs? Je disais non. Et je rentre les trucs, mais à chaque fois, j'arrive avec des solutions en disant si vous voulez, je peux faire ça, si vous voulez, je peux faire ça, si vous voulez, je peux faire ça. Aussi, il faut être très honnête, il y a une partie de chance. J'ai eu cette chance où je suis arrivé dans une équipe transfo et stratégie où on était 7 chefs de projet. Et en l'espace de 3 mois, le boss est parti. Il y en avait en arrêt maladie. Il y en avait qui changeaient de poste. Et donc, en fait, j'étais seul pendant 3 semaines à Paris à récupérer tous les portefeuilles de tout le monde, à essayer de faire avancer le truc alors que ça faisait 2 mois que j'étais là, ce qui n'arrive normalement. Enfin, t'es toujours en onboarding au bout de 2 mois. Ouais. Et donc, je me retrouvais aussi très exposé face au COMEX parce que des projets de transformation d'une boîte, tu passes toujours par souvent par le top management. Donc, j'ai cette exposition et j'en ai pas fait n'importe quoi. Au lieu d'avoir peur, je me suis dit, je fonce et je fais comme si je faisais ça depuis 10 ans. Donc, j'arrivais dans la salle du COMEX avec les mecs et je disais, OK, donc on a fait ça, nanana, est-ce que vous pouvez prendre cette décision? On n'a plus le temps. Et en fait, c'est, je pense, un peu un combiné de. Je vais pas dire talent parce que c'est quand même très je m'envoie un peu des fleurs, mais je pense que c'est un combiné de d'opportunités et de chance. Il y a vraiment un facteur chance, mais savoir la saisir et savoir aussi en faire quelque chose une fois qu'on te la donne. Et puis j'ai aussi la chance d'avoir des boss qui avaient envie de donner la chance à des jeunes, qui se disaient que surtout quand tu fais du digital et de l'innovation, c'est pas des mecs de 50 ans qui sont nés avec le téléphone fixe qui vont changer le monde ou en tout cas changer une boîte.
Là, tu vois, tu me dépeins une boîte que tu considères plutôt comme pas très moderne dans la façon dont ça fonctionnait. C'était quoi ta première impression en fait sur le marché du travail quand tu as commencé à bosser? Parce que donc ta première expérience, c'était 1 an et demi pendant ton master, qui c'était pendant une période Covid, c'était peut-être un peu différent. J'imagine que ta première vraie expérience en fait finalement c'est Adecco. Est-ce que tu as eu des remarques sur le monde du travail où tu te dis tiens, je pensais pas que ce serait comme ça?
Ouais, pas mal, mais en fait ça remonte avant Adecco, ça remonte même à mon premier stage ouvrier.
Ouais.
En première année d'école où je me souviens, mais quand j'ai réfléchi maintenant, je n'ai jamais fait le lien. Premier truc que je me suis dit en me cassant, c'est le problème, c'est le management. Je me suis dit, mais c'est n'importe quoi. Enfin, je vois alors que je m'occupais de chevaux dans une grande écurie à Paris, dans le mois de Boulogne, et je voyais des gens chialer au taf. Et je me disais, mais quoi? Mais alors que moi, j'avais 16 ans, j'étais là, j'étais avec des poneys, j'étais content. Enfin, tu vois, le truc qui n'avait aucun sens. Et je me suis dit, mais j'ai tellement envie d'aller les voir et leur dire, mais faut bouger plein de trucs, c'est n'importe quoi. Il y a du favoritisme, il y a des gens qu'on harcèle à la limite. Enfin, je me disais, c'était vraiment n'importe quoi. Et puis après, chez Adecco, la première impression que j'ai eue, c'était il y a peu de gens qui ont vraiment envie de travailler, qui ont envie de dépasser leur, leur contrat de travail. Et en fait, oui, par logique, maintenant, avec Posterior, je me dis, bah oui, t'as un contrat, tu le respectes, parce que tu vas pas gagner plus en le dépassant. Oui et non, parce que la preuve,
c'est que tu fais du conseil RH, ça.
Non, mais oui, mais la preuve, c'est qu'en le dépassant, bah, j'ai réussi à, enfin, tu vois, j'ai pas compté mes heures, oui. Alors que je me suis rendu compte au bout de 2 ans que j'avais un contrat 38 heures. Enfin, je me suis dit, mais, ah, je me suis un peu fait avoir. Mais en avançant, bah, tu te dis, bah, il faut aussi se donner. Mais il y avait peu de gens qui voulaient se donner. C'était, en fait, c'était une boîte vieillissante, pas trop, qui essayait de se réinventer dans les projets, dans la stratégie, mais avec des salariés qui sont là depuis 20 ans. Et du coup, tu t'endors parce que toi, t'es un jeune et tu vois des gens qui sont là depuis 20 ans, qui sont blasés, qui ont été un coup en marketing, un coup en finance. Tu te dis, mais comment le mec qui a fait du marketing, il finit en finance à la fin? Enfin, quel est le lien? Donc, j'étais perdu. Je me suis dit, bah, en fait, ce qui est trop bien, c'est qu'il y a des trucs à faire sur le marché du travail. D'un autre côté, c'est tellement déconnecté de la vision du monde, même de la... Désolé, je vais m'éloigner un peu du sujet, mais de l'apport que chaque job a sur le monde. Je me suis dit, mais en fait, moi, je ne comprends pas. À la base, la monnaie, c'est fait pour échanger des carottes avec des choux. Je ne comprends pas comment mon taf, il a une valeur sur la société qui fait que derrière, je peux échanger l'argent que je gagne contre de la bouffe. Tu vois, je ne comprenais pas ma contribution à la société aussi et je ne savais pas qui pouvait, dans cette boîte, comprendre sa contribution à la société. Et le dernier point, c'était sur le sens. En fait, on arrivait dans une époque où, 2020, où tout le monde voulait mettre du sens partout. Faut mettre du sens, faut mettre de l'impact. Et en fait, tu t'inventes des raisons d'être qui sont du grand n'importe quoi, qui correspondent pas du tout à ce que tu fais. Et donc, en fait, on me disait, oui, on fait de l'inclusion, nous, on est là pour... Mais enfin, j'ai regardé les mecs dans la boîte et je disais, mais on met des intérimaires, souvent issus de l'immigration, sur des jobs précaires avec des contrats à la journée. Qu'est-ce que vous parlez d'inclusion? Enfin, tu vois, donc j'étais vraiment confus en arrivant sur le marché du travail. Et après, je me suis dit, bah, au-delà de la confusion, c'est comme les gens qui disent faut boycotter Total parce qu'ils polluent. Je suis en mode, bah non, on va agir de l'intérieur, on va chez Total et on les force à bouger. Donc, c'était un peu à la croisée de ces deux chemins que je me suis dit, on va agir, et notamment pour l'emploi et pour les jeunes au travail.
Est-ce que tu as l'impression, du coup, que ta vision est marginale ou plutôt que c'est une vision qui est assez commune à l'ensemble de la jeunesse, des jeunes pros qui se lancent sur le marché du travail aujourd'hui? Et de façon plus large, est-ce que tu penses que les envies des jeunes générations sont très différentes des envies des générations un peu plus âgées qui sont sur le marché du travail depuis quelques années déjà?
Je pense que ma vision très perso là, que j'exprime, elle est assez marginale. Par contre, oui, je pense qu'il y a une vraie différence entre la vision de nos parents, de nos grands-parents, ou même de nos grands frères et grandes sœurs, tu vois, qui sont la génération juste au-dessus sur le travail, parce que on n'a pas le même socle de valeurs, qu'on a grandi avec des bouleversements énormes. Tu sais, je me souviens des cours de diversité culturelle, je pense que c'est vraiment... La même chose, c'est de la diversité générationnelle. En fait, quand tu as deux socles de valeurs, de deux populations qui s'opposent, c'est compliqué de communiquer. Il faut trouver un terrain d'entente. Tu vois, sur la diversité culturelle, ça peut être la langue ou la bouffe. Et bah, sur le monde du travail, c'est la même chose. Il y a deux socles de valeurs qui s'opposent. On tend difficilement à trouver d'ailleurs des liens. Et donc, il faut trouver un terrain d'entente. Et le terrain d'entente, ce n'est pas forcément un compromis. C'est plutôt une addition des deux socles de valeurs pour trouver ce monde idéal du marché du travail.
Alors, c'est quoi ces deux socles de valeurs qui sont différents entre les générations jeunes et les plus âgées? T'arrives à les différencier ou alors, à les distinguer et même du coup à les définir?
Ouais, c'est difficile parce qu'il n'y a pas une seule jeunesse comme il n'y a pas une seule...
Complètement.
Je regarde juste entre mes deux parents, ils n'aspirent pas du tout à la même chose. Donc, pareil, chez des jeunes, tu prends dans n'importe quel groupe, chacun aspire à des choses différentes. Si on peut le résumer, en dehors des clichés sur la génération, sur la nouvelle génération, il y a quand même une volonté d'être heureux dans sa vie.
Ouais.
Souvent, d'ailleurs, je trouve que c'est assez... c'est totalement erroné. On dit les jeunes, ils veulent faire la différence, ils veulent distinguer vie pro, vie perso, alors que ça, pas du tout. Les jeunes, ils veulent juste la vie. Ils sont en mode, je veux être heureux. Et si être heureux, c'est me casser de mon taf à 17h et envoyer tout chier pour partir 6 mois en Australie parce que, en fait, je veux pas être là, je le fais. Alors que c'est justement la génération 35-50 ans qui disent « Ouais, je veux ma vie privée, je veux ma vie pro. » Donc ça, c'est le premier point. Je pense que la génération des 50, de ceux qui ont 50-60 ans, eux, c'était vie pro en premier. Ouais. Et puis le soir, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, le week-end, pareil. Ensuite, on a eu ce basculement entre vie pro, vie perso, cette bascule, pardon. Et puis derrière, nous, maintenant, c'est « Je veux juste ma vie. Je veux pas avoir d'horaire. Si j'ai envie d'aller au musée... à 16h, j'aimerais pouvoir le faire parce que ça me paraît évident, on peut le faire. Il faut juste, et je mets un petit bémol là-dessus, il faut faire une distinction aussi entre la jeunesse que je vais appeler jeunesse dorée qui a la chance d'avoir fait des études et des jobs intellectuels et la France qui travaille, comme disent les politiques, qui n'a pas ce luxe. Donc c'est pour ça que c'est difficile de parler. Mais tu vois, pour moi, ça c'est un premier point. Il peut y en avoir des
milliers. Oui, moi celui que je vois le plus évident pour moi, c'est que mes parents, ils ont toujours été persuadés qu'un travail doit être alimentaire à la base, et que nous, on est persuadés qu'un travail, ça doit être quelque chose qui va nous permettre de nous épanouir et de trouver du sens. Quoi. Mmh.
Et ben les gens ne bossent plus pour l'argent. Il y a eu un chiffre que je sors souvent dans mon job de conseil où je dis une augmentation, ça fait rester seulement 3 mois de plus une personne qui veut se casser. Mmh. Donc en fait, tu peux sortir des... Enfin, tu vois, un mec qui est en M&A, qui va gagner 90 000 en sortie d'études, tu peux pas le tenir juste avec l'argent. Il va être attiré par l'argent, mais il va pas rester pour ça. Il va rester parce qu'il trouve un équilibre, parce qu'il comprend ce qu'il fait, parce qu'il aspire à une évolution dans la boîte. Mais c'est pas parce que tu vas lui rajouter 10 000 de salaire s'il veut partir. Il va rester 3 mois en disant « Trop bien, j'ai eu mon augmentation ». Un peu comme un jeu, et après il se casse. Donc ouais, effectivement, l'argent n'est plus du tout moteur. C'est très drôle parce que t'entends encore tellement de DRH qui disent la base de notre job, c'est l'argent. Et tu dis, alors la base de ton job, c'est de protéger l'entreprise déjà. Et puis derrière, c'est de faire en sorte que les gens, pour protéger l'entreprise, restent et soient plutôt satisfaits de leurs conditions de travail. Pas que de leurs conditions, mais de leur travail au sens large, pour la valoriser.
Alors, tu me parlais tout à l'heure des deux socles donc à additionner pour créer une zone paradisiaque du travail. Ce serait quoi, du coup, cette façon de faire communiquer deux générations ?
Waouh !
Si tu veux peut-être quelque chose de plus concret, comment est-ce qu'un manager d'une génération plus âgée peut facilement entrer en contact et manager une personne plus jeune ?
Tu as déjà donné un élément de réponse dans ta question, le management. C'est la base, en fait. Souvent, les entreprises ont eu tendance à prendre le sujet de la fidélisation de leurs employés par les conditions de travail, donc le baby-foot, le distributeur de canettes, etc.
Ça, on en revient quand même.
On en revient de plus en plus, mais à la base, enfin, parce que c'est beaucoup plus simple pour un RH de traiter un sujet globalement plutôt qu'aller voir chaque personne individuellement et traiter son plan de carrière, son plan de formation, son management, son style de management. C'est beaucoup plus simple parce que c'est généralisé à l'ensemble de l'entreprise. C'est des projets simples. Mais pour le coup, le management, c'est ce qui fait que quelqu'un reste ou part dans une entreprise, c'est ce qui fait que quelqu'un est heureux ou non dans une entreprise. Et pour moi, c'est le premier point. En fait, c'est aussi le lien dans l'entreprise entre l'ancienne et la nouvelle génération. C'est là où tu vois que souvent, tu as ton manager qui est plus âgé, tu as le jeune. Je pense qu'on en entend tous parler des managers qui te disent dans ton entourage, mais je ne sais pas comment gérer cette personne. Parce que, en fait, quand je lui demande de faire un truc, il me dit non, et puis il se casse à 18h en me regardant en mode mon contrat est fini. Et ce qui paraît totalement délirant pour l'ancienne génération, alors que nous, ça nous paraît peut-être un peu plus raisonné, normal, ou à partir du moment où c'est contractuel, on a un contrat, on travaille pour ça, et puis basta. Je pense que déjà, c'est réinventer le management, former les managers. Le management, ça ne doit plus être une fin en soi, ça ne doit plus être une évolution professionnelle, c'est un job à part entière. Et je pense que les organisations, elles ont besoin de se réinventer, de se dire, y a des gens qui sont excellents, mais qui sont des managers... nul, et il faut l'accepter, se dire ils peuvent être excellents opérationnellement, il faut qu'on leur trouve des jobs dans lesquels ils peuvent faire du management transverse sur des projets, dans lesquels ils peuvent porter une direction ou des business units, mais sans manager des gens, parce qu'en fait ils sont juste en train de ruiner l'entreprise. Tout ce qu'ils apportent en termes de valeur très opérationnelle, ils nous la font perdre fois 1000 en management.
Ouais, ça c'est un sujet qu'on avait beaucoup évoqué avec Bernard Coulati sur l'engagement en entreprise notamment.
En tout cas, je pense que le management, c'est le premier point. Et puis derrière, de manière très concrète, comment tu fais en tant que manager pour réussir à communiquer ? C'est déjà créer des zones d'échange où tu puisses vraiment comprendre. En fait, on comprend quelqu'un qu'une fois qu'on le connaît réellement. On comprend son pourquoi on fait ça, donc créer de la communication. Sortir du management uniquement opérationnel. Je ne veux pas non plus tomber dans le cliché de dire le manager, c'est le coach, c'est l'ami, c'est le psy. Enfin, il ne faut pas tomber là-dedans. Le manager, il est là pour atteindre des résultats. Mais pour atteindre ces résultats, il faut créer un environnement qui est bienveillant, qui est à l'écoute. Et il y a plein de manières de le faire. Il faut aussi que ça te ressemble, ton style de management. Il ne faut pas que tu t'inventes un personnage de mec génial, super sympa ou fille géniale. Il faut juste que tu trouves cet équilibre justement entre toi qui t'es et puis ce dont la personne en face a besoin. Et pour savoir ce qu'une personne en face a besoin, faut lui parler. C'est pas, enfin, je réinvente rien en disant ça, mais on oublie souvent juste de parler.
Et
on se fait des clichés, en fait. On se dit c'est un jeune, donc il va avoir besoin notamment, tu vois, du baby foot et du coca en illimité, alors que pas du tout.
Ouais, je comprends, mais écoute, hyper inspirant. J'aimerais qu'on revienne un peu sur toi, à quoi ça ressemble aujourd'hui ton quotidien de consultant RH, avec qui tu bosses, de quelle façon, comment est-ce que tu mets à profit tes compétences ?
Ouais, en fait je fais plein de choses. J'ai eu un peu cette traversée du désert entrepreneurial où tu sors d'un, d'un job sympa en CDI où en fait ton job c'est pour la caricature c'est quitter rejoindre ta réunion team toute la journée depuis chez toi avec peut-être 30 minutes où tu peux produire dans la journée et répondre à tes mails. Donc en fait c'est très simple, tu te poses pas trop de questions à ce moment-là parce que ta journée elle défile et t'as même pas le temps de la voir passer parce que t'enchaînes en permanence. Puis du jour au lendemain tu te retrouves seul face à toi-même en disant ok maintenant faut vraiment que je bosse, faut que je fasse des trucs de mes mains. Et donc tu cherches voilà, et aujourd'hui je fais plusieurs choses. J'ai effectivement toute cette activité de conseil RH pour des boîtes notamment petites, conseil RH et support, je vais le mettre large, mais surtout startup scale up pour les aider à structurer ces points de leur stratégie, puisque surtout sur une startup ou une scale up dans la tech, la RH c'est le premier centre de coût. C'est en fait ce qui coûte à la boîte, il n'y a pas rien d'autre. Enfin, il y a des bureaux, il y a un peu de technique, il y a des déplacements, mais à part ça, ils vendent rarement des produits en tech, donc ils vendent surtout du temps et de la valeur qui a été créée par des humains. Mais c'est comment on arrive à structurer ça. Et en fait, là où le job, moi, pour venir du corporate, où je voyais les RH comme des personnes qui ne te foutaient rien de leur journée, et qui était déjà là juste pour, enfin, qui n'était pas la bonne personne, ton confident, pour t'accompagner, alors que, tu sais, en tant que salarié, tu dis le RH, il est là pour moi, c'est un peu comme, tu considères limite le RH comme ton syndic, enfin, ton syndicat, ouais, qui est là pour te défendre, alors que pas du tout. Et en fait, je me rends compte que si tu peux, enfin, tu peux avoir un esprit très créatif, très entrepreneur comme moi et faire de la RH, parce qu'en fait, c'est de la structuration, c'est de la stratégie, c'est aussi beaucoup d'humanité. Si tu veux le faire bien, il faut être proche des gens et pas être contre les gens, les aider, avoir beaucoup d'empathie. Donc c'est ça, et puis à côté j'ai un podcast sur les jeunes parce que je trouve que c'est juste passionnant de voir ce qu'une notre génération peut faire et sa vision du monde. Je trouve que c'est le pitch du truc, donc je vais pas me vendre ici, mais c'est de dire
le podcast s'appelle Gen Z,
exactement,
G-E-N-E-Z,
et c'est de dire dans cette nouvelle génération il y a une forme de sagesse parce qu'ils vivent des trucs que l'ancienne génération n'aura jamais vécu aussi jeune. Donc allier cette vision un peu dont je parlais tout à l'heure, arriver dans une boîte ou faire quoi que ce soit très jeune, t'arrives avec beaucoup moins de stéréotypes et donc tu peux le communiquer de manière beaucoup plus aisée. Et donc je mets ça en avant. Et puis après, j'ai plein de... Tu vois, j'écris un livre sur le management. Je co-écris un livre sur le management d'ailleurs avec une super fille qui s'appelle Iris Maréchal. Je fais plein de choses et c'est là où j'ai trouvé mon bonheur. Tu vois, certaines personnes vont dire le vrai bonheur c'est d'être salarié, d'avoir la stabilité, d'autres qui vont dire c'est monter une boîte, de faire un seul truc. Et moi en fait je me suis rendu compte, j'ai fait ma petite liste de tout ce dont j'avais besoin, je me suis dit je cocherai jamais tout en faisant un seul truc, donc j'ai décidé de me diversifier jusqu'à trouver mon bonheur dans un seul projet, parce que je pense qu'au bout d'un moment il faut de la stabilité, je vais pas tenir comme ça jusqu'à 60 ans. C'est de se diversifier et de faire un maximum de trucs et surtout de suivre son intuition. Si demain, quand je rencontre des plus jeunes que moi, même si je reste très jeune, donc je sais pas pour qui je me prends de dire ça, et que je donne des conseils parce que on m'en demande, le premier truc que je dis, mais c'est suis ton intuition. Enfin, arrête de te poser la question de ce que vont penser les gens de toi, parce que déjà tout le monde s'en fout de ce que tu fais. Tu vas voir, les gens vont te regarder deux jours bizarrement et puis après ils vont oublier. Donc suis ton intuition et fais ce dont tu as besoin pour être heureux.
Ouais, mais c'est peut-être ça aussi une des envies de la jeune génération, c'est le slash, pouvoir faire plein de trucs différents sans avoir de compte à rendre. Effectivement, c'est vrai que se dire que t'as un contrat sur lequel qui est ton contrat principal, sur lequel t'es très contractuel et tu te dis ok, je fais mon 8h-17h après je m'arrête, ça te permet d'avoir tes autres activités, tes slash qui te permettent de répondre à tous les besoins que tu t'es identifié, même si c'est pas forcément des besoins de je sais pas, de salaire ou d'argent comme ce qu'on disait tout à l'heure, quoi.
Ouais, et enfin pour en finir, en France on a quand même un système de droit du travail qui est un peu complexe, qui laisse pas beaucoup de liberté, et c'est peut-être une des choses à réinventer en priorité, parce que, et là c'est ma petite conclusion politique, mais que ce soit le 35 heures, le forfait jour qui est quand même difficilement accessible en sortie d'études, alors que c'est quand tu y penses c'est un truc de dingue. Le forfait jour, c'est de dire je dois juste faire ma mission et puis normalement on me tape pas sur les doigts sur comment je m'organise. Donc si je veux, comme je le disais tout à l'heure, aller au musée à 15h à mardi parce que j'ai envie d'aller au musée à 15h à mardi, ou aller chez le coiffeur au milieu de ma journée, tant que je fais mon taf, je le fais. Et c'est peut-être ça aussi.
Alors il est pas du tout utilisé comme ça aujourd'hui, le forfait jour, mais il pourrait.
Théoriquement, c'est ça. On n'a pas le droit de te dire quoi que ce soit sur tes horaires tant que tes missions sont faites et que tu permets, et que c'est dans la continuité du fonctionnement de l'entreprise, que tu veux y travailler le week-end, un jour férié ou entre 20h et minuit pour faire avancer tes tâches et faire autre chose peut-être la journée, ou travailler plus ou travailler moins de temps en temps. T'as ça, t'as la semaine de 4 jours, on en parle beaucoup. Toutes les entreprises disent que c'est pas sain, mais en réalité, surtout sur les jobs intellectuels, si t'es capable de, si c'est exactement faire le même nombre d'heures en 4 jours, normalement ça fonctionne tout autant. Et je pense qu'on rêve tous d'un week-end de 3 jours, pas forcément pour rien faire, mais juste parce que t'as pas le temps de faire des choses qui te plaisent, que ce soit écrire, lire, peindre, voyager, aller marcher dans la forêt, enfin c'est des trucs tout cons, mais réussir à trouver cet équilibre. Et puis t'as sur le temps de travail, la flexibilité territoriale, même si on avance beaucoup plus, énormément de besoins de notre génération qui sont pas satisfaits aujourd'hui, et pour autant qu'on pourrait satisfaire assez facilement sans pour autant bouleverser une entreprise.
Bah écoute, merci beaucoup pour cet épisode hyper inspirant. C'était très très sympa de t'avoir sur le podcast. J'espère que ça vous a plu. Si vous êtes encore là, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur Apple Podcast, sur Spotify, une note 5 étoiles, à nous envoyer des messages pour nous féliciter. Ça nous fait très plaisir et ça nous aide énormément à progresser. Si vous avez des retours plus constructifs aussi, avec des choses à améliorer, on prend tout. Donc merci beaucoup pour ça. Et moi, je vous retrouve très bientôt. Salut Sarah.
Merci beaucoup. Salut.
Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si Changemaker Stories vous plaît, n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant au podcast et en nous laissant une note 5 étoiles et un commentaire sur vos plateformes préférées, Spotify et Apple Podcasts. Ah oui, et aussi, partagez ces histoires autour de vous, elles méritent d'être connues. Changemaker Stories est un podcast de l'IESEG School of Management et IESED Network, produit par ECOS Studio. À très bientôt!